Le journal Jérémy Marié. Bonjour Jérémy.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, ce sont les migrants de l'Open Arms enfin sur la terre ferme après 19 jours en Méditerranée à bord du navire humanitaire. Ils ont pu débarquer hier soir sur l'île italienne de Lampedusa, la fin d'une longue attente et d'un long bras de fer politique et diplomatique. Les autres titres, Jérémy.
On va rester en Italie avec la crise politique qui continue. L'Italie sans gouvernement suite à la démission de Giuseppe Conte. Les concertations démarrent aujourd'hui avec la possibilité d'une alliance jusque-là difficilement imaginable entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate. Avant le G7 samedi, le contre-G7 démarre aujourd'hui au Pays Basque avec la volonté, vous allez l'entendre, pour les militaires de montrer l'exemple en matière d'écologie. Dans ce journal également, la rentrée ce matin pour le gouvernement, elle s'annonce agitée. Et puis après les fortes chaleurs de l'été, c'est l'heure du bilan pour les agriculteurs avec une filière en souffrance, c'est l'élevage.
Les invités du 6-9 de l'été, 8h moins le quart, Giuliano D'Empoli, politologue italien et ancien conseiller de Matteo Renzi. L'Italie, vous le disiez Jérémy, n'a plus de gouvernement depuis hier. 8h20, le grand entretien avec Yves Verrier, le secrétaire général de Force Ouvrière. La rentrée sociale face à la réforme des retraites, la fronde syndicale. Et vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000, le standard est à votre disposition.
France Inter.
7 joie, cette liesse que vous entendez, c'était la réaction hier soir sur l'Open Arms, des applaudissements, des accolades, lorsque la centaine de migrants a appris qu'après quasiment 3 semaines à bord du navire humanitaire, ça y est, ils allaient pouvoir enfin débarquer sur l'île italienne de Lampedusa. L'Open Arms a accosté hier soir un peu après 23h30 sur ce petit morceau d'Italie au sud de la Sicile. Eric Begala.
Oui, et les 83 migrants recueillis par l'Open Arms et qui restaient à son bord ont fini par débarquer sur la terre ferme. Certains après 19 jours de mer. En tout, le navire, armé par l'organisation humanitaire espagnole du même nom, avait recueilli en mer 147 migrants au large des côtes libyennes. Quelques-uns, des enfants, des malades, avaient été évacués vers la terre ferme lorsque le navire avait pu mettre en panne en rade de Lampedusa. D'autres, une quinzaine, s'étaient même jetés à l'eau ces dernières heures, tentant de rallier le port à la nage avant d'être interceptés par les gardes-côtes italiens. Alors ce dénouement est en fait une véritable claque pour Matteo Salvini. C'est le bouillant ministre de l'Intérieur italien et chef de la Ligue, qui s'opposait en effet mordicus à tout débarquement de migrants en Italie, alors même que 5 pays européens s'étaient accordés pour répartir entre eux l'accueil de ceux de l'Open Arms. La France devrait par exemple en accueillir une quarantaine. Il aura fallu en fait l'injonction hier soir d'un procureur, celui d'Agrigente, décidant que les réfugiés devaient être débarqués pour que ceux-ci puissent le faire. Le procureur italien a aussi décidé de la mise sous séquestre de l'Open Arms dans le cadre d'une enquête contre X pour, je cite, « séquestration de personnes au mission et refus d'acte officiel. Matteo Salvini a réagi cette nuit sur ses comptes Facebook et Twitter, jurant qu'un énième procès ne lui faisait pas peur. Visiblement, il s'est senti directement visé par la procédure.
En précision d'Eric Biegala, et rappelons qu'un autre navire humanitaire, l'Ocean Viking, est toujours en Méditerranée dans l'attente d'un port sûr pour débarquer les 356 migrants présents à son bord. Vous l'avez dit, Eric, à l'instant, la crise politique qui se joue en ce moment même en Italie a largement compliqué la situation de l'Open Arms, crise dont on ne sait toujours pas quelle en sera l'issue après la démission hier du président du Conseil, Giuseppe Conte. Les différents chefs de parti vont désormais être reçus un à un dès cet après-midi par le président italien Sergio Mattarella. Objectif, former une nouvelle majorité, tenter de former une nouvelle coalition suite au coup de force début août de Matteo Salvini. Et pourquoi pas avec un front anti-Salvini. Une nouvelle alliance n'est pas impossible en effet entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate, deux formations qui pourtant était radicalement opposé, Antonino Gallofaro.
Il existe au sein du mouvement 5 étoiles une âme de gauche, comme on dit ici en Italie. Une partie de la formation qui a dû accepter à contre-cœur une alliance avec l'extrême droite de Matteo Salvini. Mais pas dit que celle-ci apprécie plus un rapprochement avec le Parti démocrate, comme semble pourtant le vouloir le fondateur, l'ancien comédien Beppe Grillo. En effet, l'une des questions qui a le plus irrité Matteo Salvini durant un an de gouvernement avec les 5 étoiles, c'est leur rejet constant de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Eh bien, les démocrates, comme la Ligue, y sont favorables. Il sera donc difficile, voire impossible, de trouver un point d'entente en cas d'alliance 5 étoiles Parti démocrate. Et puis, comment faire avaler aux militants 5 étoiles une alliance avec le Parti des banques et du système? Le mouvement anti-système, a toujours accusé les démocrates de sauver les banques en faillite sans se soucier des épargnants lésés. Même problème pour le parti de gauche. Pendant un an, l'ancien Premier ministre Matteo Renzi a toujours refusé même d'imaginer un gouvernement avec les 5 étoiles, jusqu'à cette crise politique. Rome, Antonino Gallo, Faro, France Inter.
Et les consultations du président Mattarella doivent débuter officiellement à 16h cet après-midi et durer jusqu'à demain.
Jérémy, malgré sa démission, c'est bien Giuseppe Conte qui va représenter l'Italie lors du prochain G7.
Et le sommet entre les 7 grandes puissances industrielles mondiales, il démarre samedi à Biarritz, mais dès aujourd'hui, un contre-G7 débute à quelques kilomètres de là, à Hendaye et à Irun, juste de l'autre côté de la frontière espagnole. Des milliers de militants altermondialistes sont attendus avec la volonté de se montrer le plus écolo possible dans le camp où ils sont installés. C'est capital de montrer cette image pour Thomas Sommer-Houdeville. Il fait partie du mouvement ATTAC.
L'écologie, c'est quand même un élément assez essentiel aujourd'hui du positionnement politique de toutes les organisations qui organisent ce contre-sommet. Donc c'est évident qu'on va faire attention et on va attacher une attention particulière à ce que ce camp il soit effectivement respectueux de l'environnement et donc notamment qu'on ait une politique de zéro déchet, de tri, des toilettes sèches, parce que c'est ce qu'on prône. Donc ce qu'on dit, on le fait. On veut faire la démonstration que les alternatives, l'alternative à un système qui est en train de s'écrouler et qui est en train de détruire la planète et d'augmenter les injustices, bah les alternatives, c'est nous qui les portons. Et c'est nous qu'il faut écouter. Pas Macron, Merkel ou Trump.
Et pour démarrer ce contre-sommet du G7, plusieurs ateliers sont prévus aujourd'hui autour du climat, de la démocratie ou encore du féminisme.
En France, Jérémy, l'heure de la rentrée a sonné pour le gouvernement.
Après la trêve estivale, premier conseil des ministres ce matin à 10h, un été plutôt calme finalement pour l'exécutif. Mais plusieurs dossiers brûlants comme la PMA ou encore la réforme des retraites pourraient bien changer la donne. Adrien Serrière.
Une rentrée agitée pour un gouvernement qui a appris à se méfier. Dans les prochaines semaines, des difficultés pourraient surgir de différents fronts. C'est l'analyse du politologue Jean-Christophe Gallien.
Il y a ça et là des possibilités de surgissement, en tout cas de volonté d'en découdre avec le gouvernement sur certains projets en cours de discussion. Il y a cette incertitude autour des gilets jaunes. Les anciens gilets jaunes, les nouveaux gilets jaunes, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ça soit éteint. Et encore une fois, le grand rendez-vous, qui est un rendez-vous politique, celui des élections municipales.
Mais que ce soit au sein de l'opposition ou dans la rue, les foyers de colère n'arrivent pas à se transformer en incendie, remarque Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP.
Ce sont des foyers qui sont disparates et segmentés dans une société qui est archipélisée. On le voit par exemple sur un dossier, celui de la réforme des retraites. La CGT et Force ouvrière ont d'ores et déjà appelé à se mobiliser, mais sur deux dates différentes. Donc il n'y a pas de front commun qui se dessinent. Néanmoins, les ferments de mécontentement demeurent et donc ce sont autant de points de vigilance pour le gouvernement à la rentrée.
L'exécutif devra aussi garder un œil tourné vers sa propre maison. Cet été, quelques fissures sont apparues dans la majorité lors du vote du CETA.
C'est un mot que l'on a pris l'habitude de lire, d'entendre ces derniers mois, le mot féminicide. Ces meurtres, ces assassinats de femmes par leur conjoint ou leur ex-conjoint, des féminicides. On en dénombre 93 depuis le début de l'année en France. Une femme tuée tous les 3 jours. Et une véritable prise de conscience semble s'opérer en ce moment dans la presse, parmi les médias, et aussi dans la société en général, Corinne Audouin.
Longtemps, les meurtres de femmes par leurs conjoints faisaient l'objet d'entrefilés sous les titres « crimes passionnels » et autres « drames de la séparation ». Sous l'impulsion des féministes et la pression des réseaux sociaux, les médias changent leurs pratiques. Le mot « féminicide » est entré dans le Robert en 2015. Le terme commence à s'imposer, note Laëlia Véron, chercheuse en langue française.
Je pense qu'il y a une prise de conscience des violences faites contre les femmes qui est générale. Si vous voyez par exemple « dispute conjugale », déjà on a l'impression que c'est bénin, que ça vient des deux côtés. Si vous avez « il lui a fracassé le crâne à coup de hache », c'est beaucoup moins édulcoré. Si vous avez « féminicide », ça va orienter notre regard. Parce qu'effectivement, nommer une chose, c'est toujours lui donner une existence.
Nommer les choses pour les combattre, c'est le credo du collectif « Féminicide par compagnon ou ex ». Les administratrices bénévoles consacrent une publication à chaque victime. Pour Sandrine, dont la sœur Guylaine a été tuée par son ex-conjoint en 2017, c'est essentiel.
Ça fait prendre conscience du nombre de victimes qu'il y a chaque année. C'est aussi faire en sorte que ma sœur ne reste pas que le numéro 96 de 2017, parce que on l'oublie pas. son histoire est racontée.
Même si le nombre de féminicides ne devrait pas baisser en 2019, les familles en sont sûres, cette visibilité est une première étape indispensable.
La précision de Corinne Audouin. Les grosses chaleurs de l'été, mais elles semblent être derrière nous. Et c'est l'heure du bilan pour les agriculteurs. Un été 2019 marqué par la sécheresse, évidemment, plus de 80 départements touchés par des mesures de restriction de l'usage de l'eau. Et forcément, cela a des conséquences plus ou moins importantes sur l'agriculture française. Noémie Philippot.
Victime principale, l'élevage. Les prés sont brûlés partout en France. Pour la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, les exploitations ovines et bovines sont touchées de plein fouet.
Il n'y a rien de pire que de voir ces animaux qui ont faim, qui réclament et qui vous poursuivent dans les prés. Les images que l'on a vues à la télévision montrent des prés qui sont tout marrons, de la même couleur que les vaches parfois. Ça veut dire que même certaines prairies sont mortes et sont à ressemer.
Les fruits ne sont pas épargnés. Les mirabelles ont brûlé sur les arbres en Lorraine. Dans le Gard et l'Hérault, les pics à 46 degrés ont littéralement grillé la vigne. Ailleurs, il y a presque autant de raisins que l'année dernière et la chaleur pourrait même donner de très bons millésimes à Bordeaux ou dans le Val-de-Loire. Ceux qui s'en sortent le mieux pour l'instant restent les céréaliers. Les plantes étaient matures quand il a fait chaud et sec, cela a même évité les maladies. Éric Thirouin préside l'Association Générale des Producteurs de Blé.
C'est une récolte exceptionnelle, plus 19% en production de blé tendre cette année, plus 12% en orge. Par contre, des exceptions avec l'Auvergne. Ils ont eu une sécheresse depuis cet hiver. Tout est desséché.
Pour les récoltes d'automne, ces champs fanés sont partout. Faute d'eau, par exemple, pas d'épis de maïs. Mais ce n'est pas perdu pour tout le monde. Les plantes seront transformées en nourriture pour les élevages.
Et selon la FNSEA, il y a une région tout de même qui a moins souffert que les autres de cette météo estivale. C'est la Bretagne. Le mercredi, jour traditionnel des sorties de films dans les cinémas. Et ce matin sur Inter, on s'intéresse au nouveau film d'Arnaud Desplechin, Roubaix, une lumière. Il était en compétition lors du dernier festival de Cannes, film inspiré d'un fait divers, sorte de policier, mais à la sauce Desplechin, cela donne une œuvre très loin des stéréotypes. Eva Bétan.
Il est un fils de Roubaix, son cinéma en porte la trace, mais cette fois-ci Arnaud Desplechin choisit de tenir le romanesque à distance, de se colter au réel. Roubaix, son taux de chômage et un meurtre sur fond de misère sociale qui en son temps avait effrayé la chronique, une vieille dame assassinée, deux suspects joués par Léa Seydoux et Sarah Forestier, Rush Dizem en policier, entouré, c'est une première pour Desplechin, par des comédiens non professionnels.
Les gens de Roubaix sont joués par des jeunes gens de là-bas, les mauvais garçons par des mauvais garçons. Tout est vrai, basé sur la vérité. Et la fiction, elle arrive par le mystère des âmes.
Le mal puisé dans la réalité comme mise à l'épreuve, pour nous tous, le voilà donc l'enjeu d'envergure. Il est gonflé des pléchins. Pour nous y confronter, il place le respect de l'autre, la bonté, du côté du policier.
Pour moi, c'est l'enjeu moral du film. C'est devant l'inhumain de le ramener dans le champ de l'humain. De toujours dire, c'est pas vrai qu'il y a des choses inhumaines. Il y a que des choses pathétiquement, sinistrement humaines. Et c'est vachement bien comme ça.
Une grande profondeur et en même temps, le film, en apparence tout au moins le plus simple d'Arnaud Desplechin, peut-être avec ce film, ce serait une bonne nouvelle, viendra à son cinéma un nouveau public.
Roubaix, une lumière, le nouveau Arnaud Desplechin dans les salles à partir d'aujourd'hui.
C'était le journal de Jérémy Marié. La circulation, Kevin Dufraîche, OP ses mobilités. Kevin, près d'une heure de bouchon sur la 6.
Oui, à Viry-Châtillon en direction de Paris, à cause de cet accident entre deux poids lourds, une voie est neutralisée sur 3 et ça bouchonne sur plus de 5 km en amont, une difficulté que vous mettez en effet environ 3 quarts d'heure désormais à franchir.